Nous arrivons à la quatrième session aujourd'hui. J'ai pensé que la dernière fois quand j'ai prêché en français, c'était le mois d'octobre 2014, presque un an. Et je vous remercie pour votre patience avec moi. Je vous remercie vraiment pour votre grâce sur les fautes que j'ai commises, mais quand même, je sens que le Seigneur est avec nous. Il nous donne la vérité que simplement nous pouvons apprendre par le moyen du Saint-Esprit qui peut nous aider dans notre cœur pour assimiler toutes ces choses en nous. Le dernier message que je voudrais vous partager aujourd'hui est vraiment très important. Et le titre du message est « Courir tout en connaissant la nature de la course ». Pas seulement courir, mais en connaissant la nature de la course. Il est très important que lorsque nous sommes sur la piste dans notre bande, on sait pourquoi on court et pourquoi on est là, et aussi vraiment d'apprendre la connaissance de cette course. Ce n'est pas comme les autres, c'est différent. Et je voudrais vous laisser deux versets comme la base pour l'enseignement cet après-midi. Le texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7 et aussi l'autre verset dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle. Maintenant je prends quelqu'un dans le Nouveau Testament qui était en train de courir. L'apôtre Paul qui court et qui essaye d'expliquer vraiment la nature de la course. Nous parlons la sagesse de Dieu en mystère. La sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire. Il y a aussi une autre version qui dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. » Et le deuxième verset que je voudrais lire, c'est l'apôtre Paul parle aussi « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Il y a encore une autre version qui dit « Ainsi donc qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. » Je voudrais vous parler vraiment de la compréhension de l'apôtre Paul, comment il était en train de courir en sachant que c'est une course différente, ce n'est pas comme les autres. Comme vous voyez, le titre contenait deux parties. La première partie, c'est le fait que nous sommes en train de courir. La deuxième partie, c'est la nature de course, de la course. Nous courons, mais la course n'est pas n'importe quelle course. Alors, l'apôtre Paul nous parle des choses qui sont vraiment au-delà de notre compréhension. Et vous allez voir ça dans quelques instants. Au-delà de notre compréhension. Et les paroles qu'il utilise sont vraiment difficiles parfois, mais le Saint-Esprit nous aide de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. La première chose que je trouve dans le verset dont je viens de vous lire est « Courir tout en ayant la promesse et le potentiel pour remporter le prix ne veut pas dire que la fin justifie les moyens. » Je voudrais vous rappeler ce matin, nous avons commencé avec le fondement. Notre course a deux choses, deux éléments. C'est les promesses du Seigneur, qu'il est avec nous, qu'il est là lorsque nous sommes en train de courir. La deuxième chose, c'était le potentiel qu'il nous donne. Les deux choses. Et quand on est là, en train de courir avec les deux éléments, tenir l'équilibre, ça ne se passe pas à n'importe quel prix. Et comme je vous ai dit, le prix ne veut pas dire que la fin justifie les moyens. Dans la partie de 1 Corinthiens, les termes liés avec le mot « sagesse » sont utilisés plus que 25 fois. Si vous lisez les premiers chapitres de l'apôtre Paul aux Corinthiens, vous allez voir que le mot sagesse, chapitre 1, 2 et 3, est utilisé plus que 25 fois. C'est un grand contraste avec la sagesse du monde. La sagesse qui vient de la croix est complètement différente que la sagesse qui vient du monde. Dieu a fait vraiment des choses merveilleuses. Je vous donne deux positions ici. Être conscient du point de vue de Dieu quand nous sommes en train de courir et quand nous sommes en train de remporter le prix. Comment Dieu a fait toutes ces choses pour nous? Comment il a pourvu cette possibilité que nous pouvons courir ensemble et remporter le prix? Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a vraiment mis la sagesse de ce monde dans la définition, c'est une folie. Ce que vous trouvez ici dans le monde, la sagesse du monde, est une folie. Et comment Dieu a accompli tout ça? Dieu n'a jamais commencé une discussion avec les hommes, de commencer de disputer et de faire des choses. Non, il l'a fait avec un acte. Il a commis un acte, c'était la croix. L'Éternel n'a jamais commencé de discuter avec les hommes comment il va sauver les hommes. Il n'a jamais entamé une discussion. Quelle est la meilleure méthode par laquelle je peux vous sauver, race humaine? Jamais. Parce qu'il savait que la sagesse de ce monde ne peut rien proposer. Et il l'a fait simplement par l'acte de la croix. Il a décidé de le faire. Point. On ne discute plus. C'est la décision de Dieu. Mais comment on peut être conscient de tout ça du point de vue de l'apôtre Paul? Comment Paul, il a trouvé vraiment la sagesse de Dieu qui s'est opposée à la sagesse de ce monde? Regardez, la fin justifie les moyens. Vous connaissez le proverbe, elle est très connue. Pour accomplir ce que vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen. Mais l'Évangile n'a jamais avancé sur ce type de pensée ou de devise. Jamais. Regardez l'histoire de l'Église, regardez l'Évangile, aussi la progression de l'Évangile dans la parole. L'Évangile n'a jamais avancé sur ce type de pensée. Paul n'a jamais suivi ce dilemme. La tendance de son temps était assez différente que les méthodes qu'il a utilisées. Je voudrais vraiment vous donner une idée comment le Seigneur a aidé l'apôtre Paul d'utiliser une autre tendance des méthodes quand il était en train de courir sa course. Les moyens que l'apôtre Paul a utilisés pourraient être considérés selon les standards de ce monde comme un échec. Quand l'apôtre Paul a commencé de défendre l'Évangile, de révéler l'Évangile, d'expliquer l'Évangile, il a utilisé les moyens, les standards qui, selon les standards de ce monde, sont comme un échec. Le monde de Paul était dans une crise spirituelle comme notre monde aujourd'hui. Rien n'a changé. La principale question pour Paul était, qu'est-ce que les gens feraient avec la parole de la croix? C'est la question principale aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec Christ qui est crucifié sur la croix? Même on discute beaucoup d'autres choses dans ce monde, mais la question principale reste aujourd'hui, comme pendant le temps de l'apôtre Paul, et aujourd'hui. Vous vous souvenez cet avertissement que l'apôtre Paul a fait aux Galatiens, l'épître aux Galatiens, chapitre 3, verset 1. « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? » C'était le standard, c'était le moyen de présenter Jésus-Christ. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Dans la parole de la croix, l'apôtre Paul
a trouvé vraiment le secret pour présenter l'évangile, le secret pour courir, le secret pour avoir des résultats dans sa vie et dans son ministère. Paul a refusé de prêcher des mots de sagesse, comme je viens de lire ici, à cause de deux facteurs. Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas utilisé les méthodes de ce monde, mais il a utilisé des méthodes qui étaient contre les standards de ce monde? À cause de deux raisons, deux facteurs. Premièrement, la nature de l'Évangile. L'Évangile n'était pas une philosophie. Aujourd'hui, il y a des croyants, il y a des églises, il y a des gens érudits qui essayent de transformer l'Évangile dans une philosophie. Mais ce n'est pas la vraie nature de l'Évangile. Moi, je suis professeur, j'enseigne beaucoup. Ici en Europe, aux États-Unis, je voyage beaucoup. J'enseigne aussi dans certaines universités. Et je vois vraiment la tendance. Il y a des gens qui essaient de transformer l'Évangile dans une philosophie, d'aborder l'Évangile d'une manière humaine, de faire des choses selon les méthodes de ce monde. Et quand même, l'apôtre Paul a refusé cette tendance. On ne prêche pas l'Évangile comme une philosophie. Deuxièmement, à cause de la nature de l'Église. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a appelé dans l'Église n'était pas des philosophes. Nous ne sommes pas des philosophes. Nous sommes les enfants de Dieu. En nous, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, mais on n'est pas là pour discuter l'Évangile comme des philosophes grecs ou les autres. Paul a apporté vraiment le vrai évangile à Corinthe. Il n'a pas enseigné comme les professionnels, les enseignants professionnels et les pasteurs professionnels qui prétendent savoir quelque chose. Il a présenté, l'apôtre Paul il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, ou comme si quelqu'un se croit qu'il est philosophe, il n'a pas encore connu comme il faut connaître, dit l'apôtre Paul. On ne traite pas l'Évangile avec des moyens de ce monde, de notre compréhension humaine. Ceux qui sont les plus considérés, ce sont des gens qui prêchent l'Évangile dans la nature vraie, dans ce que le Seigneur nous a communiqué, dans la pensée dans laquelle le Seigneur nous a communiqué, dans le Saint-Esprit. Il n'est pas suffisant seulement de parler de l'Évangile. L'Église pourrait parler aujourd'hui de beaucoup d'autres aspects du Christ, son enseignement, son éthique, sa compassion pour les nécessiteux, son amour pour la nature et l'environnement. On peut parler beaucoup de choses de Christ. Mais Paul souligne que Christ crucifié et la croix du Christ est la base de souveraineté, la base de confiance, la base de progresser dans notre vie spirituelle. La première chose que je voudrais vous dire, mes amis, est que nous courons aujourd'hui, nous sommes dans cette aventure avec Jésus-Christ ensemble, parce qu'il est avec nous, de courir ensemble, mais on ne le fait pas à n'importe quel prix. Nous ne voulons pas justifier chaque moyen pour proclamer l'Évangile. Nous sommes là simplement pour annoncer les bonnes nouvelles. C'était la tâche des apôtres, c'était la tâche de première église, l'église primitive, de prononcer l'Évangile, de faire Christ connu partout, de faire Christ le sujet de leur prédication, de l'Évangile, de l'évangélisation qu'il était en train de faire. La deuxième chose que je voudrais vous laisser aussi cet après-midi est que courir tout en ayant la promesse et le potentiel pour remporter le prix ne veut pas dire que les résultats dépendent des méthodes soi-disant acceptées comme pleines de succès. Il y a des méthodes aujourd'hui qu'on accepte comme « Oh, si tu fais ça selon telle et telle méthode, tu auras le succès. Tu vas réussir. » Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, mes amis. Regardez bien le message de l'apôtre Paul. Je vous parle de la nature de notre course. Premièrement, il avait un manque de pertinence de message, si vous lisez l'apôtre Paul. Quel était le contexte de l'apôtre Paul et le ministère qu'il faisait selon la parole sur la croix? Le monde, avec sa sagesse, se tentait de donner une opposition totale à l'Évangile pendant le temps de l'apôtre Paul. Le croix et le crucifié étaient sans rapport et n'avaient aucune place dans la société de Paul, comme aujourd'hui. Je voudrais répéter cette phrase. La croix et le crucifié étaient sans rapport et n'avaient aucune place dans la société de Paul. C'est une conclusion vraiment triste, mais c'était vrai. Et je vais vous donner les preuves. Il avait une manière juive de rejeter la croix. Les Juifs demandaient des miracles. Ils voulaient toujours des miracles, comme l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Ils cherchaient des miracles, des signes. Ce premier verbe, demandait. Les Juifs demandaient des miracles. Le premier verbe demandait a quelque chose à voir avec la satisfaction. Satisfaire les Juifs. Les Juifs voulaient être satisfaits parce qu'ils ne croyaient pas Jésus et ils voulaient avoir une satisfaction. Ah, parce qu'il a fait ce miracle, il est vraiment le Messie. On va croire en lui. On va accepter l'Évangile. Ils cherchaient un Messie qui était guerrier. Ils cherchaient un Messie qui avait des signes, avec un signe éclatant dans le ciel, qu'il produira des choses merveilleuses. Ils cherchaient un Messie qui va casser le joug des païens. Mais la croix n'a pas fourni ceci, pas du tout. Et alors, la croix est devenue, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ? Scandale. Scandale. Parce que Jésus n'a pas produit le miracle, le signe que les Juifs voulaient voir. L'apôtre Paul nous dit, il y a un verset, je ne sais pas si vous avez vu ça avec beaucoup d'attention, mais 2 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 4, il dit, « Messie est mort dans la faiblesse et la honte. » L'apôtre Paul dit, « Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. » Écoutez, est-ce qu'on peut prêcher l'Évangile de quelqu'un qui est mort dans sa faiblesse? Regardez le langage de l'apôtre Paul. Paul, est-ce que tu veux prêcher l'Évangile qui va gagner le monde? Prêche quelque chose qui est plus encourageant. Pourquoi tu prêches Christ qui a été crucifié? Il dit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Pourquoi tu prêches Christ qui a été crucifié à cause de sa faiblesse? Regardez les méthodes de l'apôtre Paul, totalement opposées des méthodes des Juifs et des Grecs. Il avait aussi une manière grecque de rejeter la croix. Regardons la manière grecque de rejeter la croix. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs demandent des miracles, mais les Grecs cherchent la sagesse. Ce deuxième verbe, chercher, a quelque chose à voir avec l'amusement. L'amusement, une philosophie dont le but est d'amuser les Grecs. C'est ça que les Grecs cherchaient. Le croix ne leur a pas fourni ceci, il est devenu une folie pour eux. Regardez les deux parties de la société de Paul, les Juifs et les Grecs. Imaginez-vous, vous êtes l'apôtre Paul et vous êtes là pour prêcher l'Évangile. Comment vous allez présenter l'Évangile? Comment vous allez courir? Comment vous allez accomplir la tâche que le Seigneur vous a donnée? J'imagine que si c'était moi, je voudrais être présent devant eux comme un homme fort, comme quelqu'un qui va prêcher des grandes choses, choquer l'audience et les gens comme ça avec un grand message. Au contraire, l'apôtre Paul commence avec une chose. Nous proclamons l'Évangile en mystère, il a dit, quand j'ai commencé le message avec ce verset. En mystère, quel est le mystère? On prêche Christ crucifié. Paul a confronté la parole de la croix avec les présomptions juives et grecques. Et nous avons ici une grande question. Comment l'Évangile se rapporte-t-il à la compréhension intérieure des peuples et leurs fausses idées au sujet du monde? Comment nous allons courir aujourd'hui notre course? Comment l'Église va présenter l'Évangile aujourd'hui dans ce monde, qui n'est pas vraiment différent que le monde de l'apôtre Paul? Comment votre Église va présenter l'Évangile? Comment moi et vous, portant vraiment le flambeau dans nos mains, comment nous allons présenter l'Évangile? Je voudrais vous donner aussi les caractéristiques différentes de différentes générations. Les caractéristiques de chaque génération sont définies par deux verbes. Le verbe « demander » et le verbe « chercher ». Le verbe demander, c'était le verbe des Juifs. Le verbe chercher, c'était le verbe des Grecs. Et les deux verbes reflètent le désir de l'homme pour la perfection. Perfection de ses circonstances, perfection de son caractère, perfection de sa vie dans son ensemble. Et Paul, il devrait travailler, il devrait présenter l'Évangile en sachant les deux caractéristiques. La version juive. Quelle était la version juive, la caractéristique juive? Ils avaient la même exigence de Jésus. Ils n'étaient pas satisfaits, comme je vous ai dit. Ils cherchaient un grand signe. Et qu'est-ce que Jésus a dit? J'aime beaucoup ce que Jésus a dit. Cette génération est une génération méchante. Ce sont des paroles de Jésus. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Regardez comment Jésus a défini les caractéristiques juives de cette génération. Une génération méchante. Elle cherche des choses pour croire, mais je ne donnerai aucun autre signe que ma résurrection, le signe de Jonas. La version grecque. Par ailleurs, les Grecs avaient un autre type de caractéristique. Ils n'avaient pas de littérature biblique comme les Juifs. Les Juifs étaient privilégiés. Ils avaient la loi, les prophètes, toutes ces choses, mais pas les Grecs. Alors, c'est pourquoi les Grecs étaient laissés à leur propre pensée et à leur propre raisonnement. Ils cherchaient quelque chose qui attira leur attention, quelque chose digne d'attention, quelque chose digne de débat, qui ferait, comme on dit aujourd'hui, la première page de journal. Quelle sera la première page de journal? Une chose que je voudrais voir, une nouvelle chose chaque jour dans ma vie. Maintenant, en sachant les caractéristiques de la société de Paul, je voudrais vous dire qu'il avait des tentations possibles dans sa prédication. Il avait des tentations possibles. Je voudrais vous donner simplement deux tentations possibles pour l'apôtre Paul qu'il pouvait utiliser quand il prêchait l'Évangile, mais il n'a jamais utilisé. En prêchant le Christ, l'apôtre Paul, aux Juifs par exemple, l'apôtre Paul, il pouvait accentuer le fait qu'il appartient à leur nation. Il pouvait dire aux Juifs, mais écoutez, nous avons un grand prophète parmi nous, il appartient à nous. Regardez comment il est merveilleux. Regardez cet homme, il a fait tellement de miracles parmi nous. Cet homme, il est envoyé, il nous a donné les preuves que Dieu existe. Il était un parmi nous, il était un Hébreu. Il était un homme, un grand homme pour notre race. Paul, il pouvait élever Jésus dans un langage magnifique, positif, devant les gens. Il pouvait même parler que nous avons un prophète comme Moïse parmi nous. Il citait les Saintes Écritures sans problème. Il était capable de donner des explications sur les prophéties et toutes ces choses. Mais Comme Jésus a dit, je ne suis pas venu ici de détruire la loi et les prophètes, mais accomplir. C'était la première tentation que l'apôtre Paul pouvait utiliser dans sa prédication. Moi, et je pense qu'il y a certains parmi nous aussi, qui prêchent l'Évangile régulièrement, très souvent, il a cette tentation de devenir des avocats pour le Seigneur. On est là pour défendre et pour prouver aux gens que vraiment Jésus-Christ est un grand, grand prophète, est un grand enseignant. Il nous a donné l'éthique de Jésus-Christ est vraiment utilisée aujourd'hui parmi les nations et toutes ces choses. L'apôtre Paul n'a pas cédé à cette tentation. Il avait aussi une deuxième tentation dans sa prédication, dans les messages qu'il prêchait. En prêchant aux Grecs et les païens, Paul aurait pu attirer l'attention sur le fait que Jésus était resté loyal au gouvernement établi par les autorités romaines. Il était contre la violence. Jésus était contre le terrorisme. Il pouvait utiliser cette tentation. Son enseignement contenait tant de sagesse. Il était vraiment sage et intelligent. Et il pouvait même confronter des questions provocantes. Oh, il pouvait utiliser même la prédication sur la montagne qui est pleine de sagesse. Exposer la sagesse de Jésus-Christ. Mais non. L'apôtre Paul n'a pas cédé à ça. La nature de sa course était différente. Il n'était pas philosophe. Il n'était pas un avocat pour Jésus-Christ. Il avait assez de philosophes. J'ai mis deux mots anglais ici dans l'autre diapositive, marketing ou branding. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces deux choses. Qu'est-ce que c'est marketing et qu'est-ce que c'est branding? Je sais qu'il y a beaucoup de discussions comment les mots anglais pénètrent la langue française. Mais on utilise les deux définitions, marketing ou branding. Marketing est un processus social par lequel les individus et les groupes obtiennent ce qu'ils veulent à travers la création et l'échange des produits. Le désir de client définit quel sera le produit. C'est le marketing, c'est très facile. Moi, je voudrais ça. Alors, les gens qui travaillent disent, OK, c'est le désir de la communauté. Nous pouvons gagner beaucoup d'argent. On va le produire dans telle et telle forme, dans tel et tel modèle. Et c'est le marketing pour satisfaire aux besoins des gens, mais pas seulement aux besoins, mais à leur désir. Le désir décide quel sera le marché. C'est le marketing. L'apôtre Paul pouvait transformer l'Évangile comme un marketing. Il était tenté par les Juifs, il était tenté par les Grecs de transformer l'Évangile pour le faire vraiment plaire aux gens et avoir plus de monde sauvé. Il a refusé. Qu'est-ce que c'est le branding? C'est l'autre chose. Branding. Branding, ça signifie une marque. Vous voyez une marque, vous voyez un nom qui caractérise vraiment la qualité de travail que cette société donne. Vous regardez le branding, ça signifie, vous regardez le signe de Coca-Cola et ça vous parle immédiatement quelque chose. C'est le branding, un signe, un nom qui vous parle de la qualité de cette société, ce qu'on produit du produit. Et je pense que dans ce cas, l'apôtre Paul n'a pas utilisé le marketing, mais il a utilisé le branding. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie regardez la parole sur la croix. Regardez Christ. Il est la réponse aux besoins de notre monde. Regardez, Christ, c'est la marque que l'apôtre Paul a utilisée. Christ est seulement Christ. Christ crucifié, c'est ça que je veux savoir parmi vous. Rien d'autre. C'était pour lui le branding, c'était le succès. C'était vraiment la clé pour ce que va faire l'Évangile, produire des fruits. Il nous donne le travail de Dieu. Vraiment, comment Dieu, dans l'éternité passée, il a planifié le calvaire pour nous et abouti au temps moderne. Christ est venu, la détermination libre de Dieu, de l'Éternel, d'envoyer Jésus-Christ pour nous, pour mourir pour nos péchés. Et la détermination et la bonne volonté de suivre la grâce de Jésus-Christ aujourd'hui. En ce qui concerne le salut, Dieu ne s'ajuste pas à la sagesse de ce monde. Et comme je viens de vous dire ce matin, l'Évangile est seulement une annonce. On proclame les bonnes nouvelles de l'Évangile et on voit les résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas les méthodes de ce monde. Bien sûr, il y a des méthodes excellentes qu'on utilise dans nos églises, qu'on utilise dans les écoles de dimanche, on utilise dans notre école aussi. Mais la substance et le message ne changent jamais. Maintenant, j'arrive au sommet, le troisième point. Courir tout en ayant la promesse et le potentiel pour remporter le prix ne veut pas dire qu'un réel succès peut être défini par des critères d'évaluation connus. Aujourd'hui, il y a des critères qu'on utilise pour évaluer des choses. Et si on essaie d'évaluer le succès de l'Évangile par ces critères, nous allons voir une chose très intéressante. Et je vais vous montrer toutes ces choses. En dépit de ces mauvaises circonstances, cette folie a réussi. Elle a accompli la chose dont le monde a besoin. Son but est de sauver ceux qui croient. La proclamation demande la foi et n'est reçue que par la foi. Dieu n'a pas essayé d'abord le mot « sophia » en grec qui signifie « sagesse » ou le mot « gnosis » qui signifie « connaissance ». Regardez bien, l'Éternel, le Seigneur n'a jamais utilisé « sophia » ou « gnosis », « sagesse » ou « connaissance » comme des moyens pour obtenir le salut. Pas du tout. Et on arrive vraiment au sommet, comme je viens de vous dire. Regardez bien le point que j'ai sur le diapositif. Le message, les auditeurs et le prédicateur se sont complétés dans la folie. Je vais souligner encore ça. Le message de la croix, la parole sur la croix, était quoi? La folie pour ce monde. Scandale pour les Juifs. La folie pour les Grecs. Le message. Les auditeurs. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens? Frères et sœurs, regardez-vous. L'apôtre Paul dit. Il n'y a pas beaucoup de gens érudits parmi vous. L'apôtre Paul dit. Le Seigneur a sauvé nous, les gens qui sont très simples, pour mettre ce monde vraiment en honte. C'est honteux pour ce monde de ne pas accepter l'Évangile. Mais nous n'avons pas de grands érudits parmi nous, dit l'apôtre Paul, les auditeurs. Et le prédicateur, qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens? Quand je viens devant vous, je ne viens pas avec des miracles, des choses, des paroles philosophiques, des paroles de sagesse. Et je tremble, dit l'apôtre Paul. Le message, les auditeurs et le prédicateur se sont complétés dans la folie et dans la faiblesse. C'est la nature de notre course. Selon les critères de ce monde. Moi-même, je suis grandi dans un pays, mon pays d'origine, Bulgarie. C'était le régime communiste jusqu'en 1989. J'ai commencé le travail,
1982. Et dans chaque entreprise, il y avait un membre du Parti communiste qui était comme officier de l'entreprise pour vraiment éduquer les gens sur la doctrine de Lénine, le Marx et les autres leaders communistes. Et je me souviens un jour, ce monsieur est venu chez moi. Il me dit, Joseph, je sais que tu crois en Dieu. Je sais que tu crois vraiment, mais écoute mon ami, la foi, c'est pour tes parents. La foi n'est pas pour toi, tu es jeune. Tu as l'avenir devant toi. C'est stupide. Comment tu peux croire que Dieu existe? Comment tu peux croire que Jésus est venu et il est mort et à travers de la croix, il y a un seul. Il connaissait l'évangile, cet homme. Comment tu peux croire toutes ces choses? Regarde, tu es un homme qui a suivi l'université, tu as le degré, tu as tout, tu peux commencer une carrière dans ta vie. Ne regarde pas ton grand-père, ta grand-mère, ta maman, ton papa. On change, c'est une nouvelle génération aujourd'hui. Le progrès, la science et toutes ces choses. J'avais le sentiment que dans ce moment, c'était le diable lui-même qui me parlait. Peut-être oui. La tentation. Le message, les auditeurs et le prédicateur se sont complétés dans la folie. Et quand même, ça marche. Et quand même, ça fonctionne. Et quand même, le Seigneur sauve les gens aujourd'hui. Et quand même, le royaume de Dieu progresse. Et quand même, il reste comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est la folie selon les standards de ce monde. Je voudrais conclure avec les faits importants qui définissent la nature de notre course. Paul demande aux Corinthiens de se souvenir de quelques faits importants dans leur vie. Et ma parole, il dit, et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que votre course soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul utilise quelques mots en grec ici. Je voudrais vous donner un petit peu les détails pourquoi il a une vérité très profonde dans ce texte. Il utilise ici un mot grec qui n'est pas utilisé jamais dans le Nouveau Testament. Le grec apodeixis. Le mot grec apodeixis ne se trouve jamais dans le Nouveau Testament. Et ça signifie une preuve, une démonstration d'une demande ou d'un fait. Et la seule preuve, l'apôtre Paul veut nous dire, du travail de l'Évangile est la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui produit les résultats. Ce n'est pas nous qui sommes avec le relais et en train de courir. Non, on est là, on regarde le prix pour remporter, mais c'est le Saint-Esprit qui fait le reste. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail du Seigneur. C'est le mot preuve. C'est la preuve, rien d'autre. Si vous voulez évaluer l'Évangile, si vous voulez évaluer votre course, si vous voulez évaluer votre piste, votre bande sur laquelle vous êtes en train de courir, c'est la folie selon les standards de ce monde. Mais selon la sagesse de Dieu, c'est le moyen pour notre salut. C'est le moyen pour voir vraiment ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et j'ai deux phrases ici, je pense, dans le diapositive. Corinthe, la ville de Corinthe a été très influencée par l'enseignement du philosophe grec Socrate. Socrate était très connu à Corinthe, dans cette ville. Et Socrate utilisait beaucoup des techniques de rhétorique, l'art de persuasion.
Socrate a insisté sur le couple du mot suivant. Il a insisté sur Sophia, sagesse, et il s'est insisté sur le mot peito, qui signifie persuasion. Selon Socrate, le philosophe grec, on peut changer la société par la sagesse et on peut changer la société par la force de la persuasion. Mais quand Paul parle aux gens de la même ville, la ville de Corinthe, il parle de la manifestation du Saint-Esprit. Socrate ne sait rien de tout ça. Paul insiste sur deux mots. Regardez bien, si vous lisez l'histoire de la ville de Corinthe, vous allez comprendre tout ça. Pour Socrate, c'était Sophia, la sagesse, et c'était Peito, la persuasion. Et l'apôtre Paul a changé les deux mots, le couple de deux mots. Il insiste sur les mots suivants. Pneuma, le Saint-Esprit, et la puissance, dynamis. Il a changé complètement la sagesse humaine. Il a changé complètement ce que les citoyens de la ville de Corinthe pensaient, qu'on peut changer la société par la sagesse, on peut changer la société par la conviction, par la persuasion. Et l'apôtre Paul dit non, ce sont les méthodes dans ce monde. C'est le monde qui utilise les méthodes. Pour nous, on prêche l'évangile, pour eux c'est une folie, pour nous c'est une puissance. Et pour nous, on ne s'appuie pas sur notre propre force, on s'appuie sur la force, la puissance du Saint-Esprit. Quel changement de la mentalité dans la ville de Corinthe! Quel changement de notre perspective! Comment nous sommes en train de courir notre course! Combien de textes dans le Nouveau Testament ressemblent à ce texte? Et regardez bien votre vie. Regardons bien nos églises. Regardons ce que nous faisons pour le Seigneur. Très souvent, je voyage beaucoup. J'enseigne aux États-Unis, en Europe, et récemment, je voyage beaucoup. Et parfois, je me souviens, une fois, je suis assis dans l'avion, et c'est un long voyage de 9h30, et je regarde vers la fenêtre, et je regarde l'océan. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Aucune réponse. Parce que selon les standards de ce monde, c'est la folie. Tu voyages partout dans le monde pour annoncer l'évangile qui ne signifie rien aujourd'hui dans le monde. Et le Seigneur m'a parlé très fortement dans mon cœur, parce qu'on est là avec l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur qui est ultime dans notre vie. L'appel du Seigneur qui nous pousse à proclamer l'Évangile. L'appel du Seigneur qui est une folie aujourd'hui dans le monde, mais dans les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une richesse. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes en train de courir. Aujourd'hui, nous sommes le relais de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les instruments dans sa main. Il est en train d'utiliser chacun de nous. Et parfois, l'ennemi essaie de nous décourager. Pourquoi tu fais tout ça? Mais tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à toi? Pourquoi tu t'occupes avec toutes ces choses? Je voudrais vous dire que l'apôtre Paul nous a laissé vraiment un fondement très solide. Si vous connaissez le Seigneur comme votre sauveur, si vous êtes obéissant à sa parole, si vous suivez le Seigneur avec votre potentiel, votre cœur, votre âme, votre force, et votre pensée, je voudrais vous dire, mes amis, que vous êtes sur le bon chemin. Et aujourd'hui, vous êtes le relais de Dieu. Il fait son travail dans ce monde, à travers vous et à travers moi. Moi, je voudrais continuer parce que j'ai cette assurance Je dis, Seigneur, je n'ai pas des paroles de Sophia, de la sagesse. Je n'ai pas des paroles de Peito, de persuader les gens. Mais j'ai ton Saint-Esprit en moi. J'ai ton Saint-Esprit en moi. Et si j'ai ton Saint-Esprit en moi, je suis plus que vainqueur. J'ai tout. Si j'ai le Saint-Esprit en moi, qui agit en moi, qui habite en moi, qui m'enseigne tout ce que Jésus nous a donné, c'est le rôle du Saint-Esprit de nous rappeler toutes ces choses et de nous enseigner toutes ces choses, ce que Jésus nous a dit, j'ai tout. Je suis le plus riche homme dans ce monde. Vous êtes le plus riche homme, la plus riche femme dans ce monde, parce que vous avez tout. Le reste, ça va rester ici dans ce monde. Mais vous avez le plus précieux dans votre cœur. Vous avez le plus précieux dans votre être. La présence du Saint-Esprit en nous. En terminant, ma prière est que le Seigneur, bien sûr, utilise nos talents, que le Seigneur utilise nos capacités, que le Seigneur utilise notre éducation, que le Seigneur utilise ce que nous sommes doués de faire. Mais surtout, surtout, ma prière est que le Seigneur nous utilise dans sa puissance. Dans sa puissance. Quand les pasteurs prêchent, que leurs messages sont remplis, saturés de la puissance du Saint-Esprit. Quand les évangélistes partagent l'Évangile, que le partage est saturé de la puissance du Saint-Esprit. Quand nous faisons quelque chose pour le Seigneur, que nos actions et nos pensées sont saturées par la puissance du Saint-Esprit. C'est la folie pour ce monde, mais pour nous, c'est une grande puissance. C'est ma prière pour vous. Et que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur se révèle plus en plus dans vos églises, dans ce que vous faites pour lui, parce qu'il est un Dieu fidèle. Comme je viens de vous dire, il est un Dieu accessible. Il cherche les hommes accessibles. Et il est là de nous donner, pas les paroles de Sophia, pas les paroles de Peito, les paroles de philosophie, les paroles de sagesse, les paroles de persuasion. Il est là pour nous donner les paroles, l'enseignement de puissance. Est-ce que son Église est d'accord? L'Église de Jésus-Christ est vainqueur. On ne sera pas vaincu par le diable. On ne sera pas vaincu par le prince de ce monde. Nous avons le Saint-Esprit en nous et nous serons des vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous et terminons avec une prière dans le Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, parfois on se demande pourquoi nous sommes en train de courir. Courir avec l'Évangile. Courir avec la vérité, ce que tu nous as donné. Parce que pour ce monde, ça ne signifie rien. Ou ça signifie un peu de choses. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour cette assurance que tu nous as appelés, que tu nous as équipés avec ton Saint-Esprit pour faire ton travail dans ce monde. Nous sommes là, Seigneur, pour enflammer le don que tu nous donnes aujourd'hui. Nous sommes là, Seigneur, pour utiliser nos talents, pour utiliser notre éducation, pour utiliser les capacités que tu nous as données, pas dans notre propre force. Mais tu es là, Seigneur, pour utiliser chacun de nous par la puissance du Saint-Esprit. Je te remercie aujourd'hui, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu as donné à ton Église. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as dit que tu vas envoyer le Saint-Esprit, tu l'as fait, Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons courir avec cette puissance. Je te remercie, Seigneur, parce que tu utilises chacun de nous pour ton royaume. Pas seulement les pasteurs, pas seulement les évangélistes, pas seulement les anciens, pas seulement les gens qui ont peut-être une définition devant leur nom. Seigneur, tu utilises chacun de nous, Seigneur, parce que chacun de nous fait une partie du corps de Christ. Et tu diriges le corps de Christ directement par la tête qui est Christ et le Saint-Esprit qui est là. À la fin, Seigneur, nous avons prononcé beaucoup de choses. Nous avons déclaré la victoire au nom de Jésus. Nous avons fait des choses, Seigneur, contre les ténèbres dans ce monde. Et à la fin, Seigneur, quand nous prenons cette position, nous voulons te donner toute la gloire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit proclamé, Seigneur, à travers nos vies, Seigneur, à travers nos paroles, Seigneur, à travers notre conduite, Seigneur, que ton nom soit élevé et proclamé et que nous soyons la lumière dans ce monde. Merci, Seigneur, pour ce privilège de courir vers le but, de courir vers le prix et remporter le prix, pas dans notre propre force, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 À lui la gloire. À lui la gloire. Amen.